Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Nicolas Villas.
Et Lionel Charbonnier, Laure Le Payeur, Roland Courbis avec vous sur le hashtag RMC Live. Beaucoup de réactions également sur l'application Direct Studio après l'intervention de Steve Garda il y a quelques instants. Pour l'instant, on a un after spécial suisse. Alexandre Song avait ouvert cet after. Lui qui vient de se faire virer du FC Sion par le président.
On a envie de chocolat, c'est pour ça.
Je comprends pas.
Et ben là,
rien à voir. Mais pourtant, lui aussi, il aime le chocolat. Fred Hermel est avec nous. Bonsoir Fredo.
J'adore le chocolat.
Bah oui, bien sûr.
Et je vais pas faire comme c'est tous les bobos qui disent j'adore le chocolat noir. Non, j'adore le chocolat au lait comme tout le monde.
Ah non, j'adore le chocolat noir. Moi j'adore le chocolat noir.
Moi aussi j'adore le chocolat noir. Mais c'est pas chic de dire qu'on aime le chocolat au lait.
Salut Fredo.
Hola chica, hola chicos.
Je suis pas un espagnol, moi. Tu la connais, ça là ou pas? Je t'enverrai le lien de la vidéo. Bref. Alors si t'es là, mon Fredo. C'est parce que Dimitar Berbatov a fait une interview pour Betfair. Vous savez, il y a pas mal d'anciens joueurs qui ont signé des deals, des contrats avec des sites de sponsors en ligne. L'ex-buteur bulgare qui a été interrogé sur le cas Luka Jovic au Real Madrid. Alors, recruté l'été dernier pour 60 millions d'euros, le Serbe qui a planté que deux buts en un peu plus de 20 matchs cette saison avec le Real Madrid. Et voilà ce que répond Berbatov sur Luka Jovic. Pour l'instant, les choses ne vont pas comme il le souhaite. Mais n'oublions pas qu'il a Karim Benzema devant lui. Pour moi, Benzema est l'un des joueurs les plus sous-estimés du football en ce moment. Il marque tellement de buts et il n'obtient pas souvent la reconnaissance qu'il mérite. Question, comme le dit Berbatov, estimez-vous que Benzema est sous-estimé? 32-16 pour y répondre, hashtag RMC Live. Tiens, Fredo, il est dans l'histoire du Real Madrid quand même. Alors, ne serait-ce que pour les stats, Karim Benzema, au niveau des buts, au niveau des matchs, au niveau des titres.
Hein. Ah oui, je n'ai pas bien compris, ou alors il y a un mot ou un morceau de phrase qui me manque. Quel rapport ça, que le fait Benzema soit sous-estimé par rapport à la non-intégration pour le moment de Jovic?
Parce qu'il dit que si Jovic n'y arrive pas, c'est parce que Benzema est trop fort.
Voilà.
Mais que les gens ne valorisent pas ça. Voilà ce que veut dire Berbatov. Je traduis, c'est ça.
C'est lui qui sous-estime son joueur. Alors, enfin,
non.
S'il dit qu'il est barré
par un... Au contraire, c'est que Benzema, justement, il est beaucoup plus fort et que c'est difficile de le déloger, en fait.
Exactement. Bah voilà.
Et s'il est arrivé, mettons que Benzema soit pas là, et si Jovic il arrive et qu'il y a Ronaldo, alors.
Oh, il change de sport.
Bah, c'est pas le même poste déjà, donc.
Tu vas pas
nous casser notre débat, coach.
Mais non, mais j'essaie
de comprendre. Ça fait 3 jours que Nicolas il bosse sur le débat et moi aussi.
mais
on a même anticipé l'interview de Berbatov.
Ben ouais,
non, mais comment tu peux être sous-estimé quand t'es le meilleur attaquant du Real? Enfin, je comprends pas. Tu joues dans la plus grande équipe.
Non, mais je pense qu'aussi. Après, je pense aussi ce qu'il voulait dire, c'est que de façon générale, c'est vrai que Benzema, il est peut-être sous-estimé.
Bien sûr.
Parce qu'il est pas en équipe de France.
Non,
pas forcément. Je pense que dans les numéros 9, il est pas forcément mis toujours au premier plan. On parle souvent des joueurs comme Agüero, Lewandowski, etc. Et des fois, c'est vrai qu'on oublie un peu Benzema dans ces discussions.
Non, mais attends, Lionel, toi, ta réponse, mais justement, toi, ta réponse, ça peut être de dire, moi, j'estime que Benzema n'est pas sous-estimé.
Oui, mais c'est ça. Okay. Moi, je trouve pas qu'il soit sous-estimé. Il est numéro 9, indiscutable. Soutenu par l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Dans la meilleure équipe du monde, il est titulaire. Il y a des grands joueurs derrière lui qui n'arrivent pas à l'enlever du terrain. Non, il est pas sous-estimé. Alors, on a tendance à dire qu'il est sous-estimé. Pour moi, je le prends comme ça. Parce qu'il est pas simplement en équipe de France. Mais ça n'a rien à voir. C'est tout, ce ne sont pas forcément les meilleurs joueurs qui jouent en équipe de France.
Fredo, resitue nous quand même Benzema dans l'histoire du Real.
Ah ben c'est, il est dans l'histoire du Real. Il faut pas oublier que Benzema est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Qu'il n'est plus qu'à 11 buts de Raoul pour devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière un certain Cristiano Ronaldo et un autre certain Lionel Messi, qu'il a battu plein de records, il a dépassé Puskas notamment au nombre de buts marqués. Alors, vous savez, il y a toutes les statistiques en Liga, en Europe, etc. Il a marqué, je crois, aujourd'hui plus de buts en Europe qu'un certain Alfredo Di Stefano, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Non mais Benzema, si vous prenez ses stats, c'est un truc de malade. Il fait partie de l'histoire du Real Madrid. Il a gagné 4 Ligues des Champions. 4 Ligues des Champions.
Mais est-ce que tu estimes qu'il est sous-estimé du
coup? Oui. Ah mais depuis le début. Même encore.
Alors attends, Fred,
on va expliquer, coach. J'expliquais, coach, simplement. Benzema. Non, mais simplement pour vous puissiez. J'ai donné quelques infos pour que vous puissiez débattre.
Vas-y, Fredo.
Non, si tu. Le truc le plus important, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un concurrent, les supporters du Real Madrid, les enquêtes qui étaient. Les sondages qui étaient faits dans les journaux, Higuaín, on voulait Higuaín plutôt que Benzema. Il fallait vendre Benzema. Arrive Adebayor, il devient Manolito Adebayor. Il faut virer Benzema, il faut garder Adebayor. Mais à chaque fois... Pardon ?
Il y a eu Chicharito aussi.
Et Chicharito, Chicharito, c'était le meilleur. Il fallait mettre Benzema sur le banc. Jusqu'au départ de Cristiano Ronaldo, à partir de la saison dernière, où Benzema, enfin libéré de Ronaldo, a montré qu'il pouvait marquer beaucoup de buts, les gens voulaient tout le temps un autre attaquant plutôt que Benzema. La proportion de gens au sein des supporters du Real et au sein de la presse espagnole qui supportaient Benzema était peut-être de 25 ou 30%. Une immense majorité des gens ne voulaient pas de Benzema.
Et c'est là donc qu'il y a le Jovic. Pour essayer de comprendre.
Non mais on s'en fout Jovic coach, c'est pas ça le truc.
Fredo, tu parles aussi en Espagne. Effectivement, tu y parles de ça, mais moi je dirais aussi qu'il est sous-estimé en France parce que aussi je pense qu'il a souffert d'une certaine image et je pense que c'est un joueur qui est aussi sous-estimé alors que footballistiquement parlant, pour moi, il fait partie des meilleurs attaquants.
Ouais, mais l'image, c'est lui qui l'a géré tout seul.
Il faut différencier deux choses. Essayons
de tomber d'accord, excuse-moi. Essayons de tomber d'accord sur une chose. Benzema, Fred, je sais qu'on l'aime tous beaucoup. On le met quand même pas dans la catégorie des grands joueurs comme Messi, Ronaldo, Platini, Zizou. On est bien d'accord. Il est quand même un peu en dessous.
Bien sûr qu'il est en dessous.
Moi, je pense qu'il faut le placer aussi dans les numéros 9 de pointe.
Exactement. Moi, je suis d'accord avec Laure. On n'a jamais. Moi, je pense que le gros problème de Benzema, c'est que son jeu est peut-être trop compliqué à comprendre pour le supporter lambda. Moi, à chaque fois, il est en train de terminer sa 11e saison au Real Madrid quand même. Non, mais je parle pas de vous, les amis. Non, mais parce que toi, tu apprécies Benzema. Moi, c'est simple. À chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un du football, que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur, que ce soit un directeur sportif, tout le monde, tous les gens du foot, parce qu'ils connaissent le foot, aiment Benzema. Mais dès qu'on sort des professionnels du foot, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il a un jeu plus difficile à déchiffrer qu'un autre. Son importance auprès de Cristiano Ronaldo, les gens ne la voyaient pas. Le premier à la voir, c'était premièrement Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il avait un jeu, il a toujours un jeu trop sophistiqué pour les supporters de base.
C'était un serviteur pour Ronaldo à Polo
Echange. C'est vrai que Fredo, finalement...
Ouais, mais moi, je dirais, moi...
Non, oui, vas-y, pardon, Laure. Vas-y, Laure.
Oui, moi, je rejoins Fred, ce qu'il dit. Pour moi, Karim Benzema, il incarne le vrai numéro 9. Parce que c'est vrai qu'on parlait justement de lui quand il jouait avec Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il s'est mis un peu aussi au service de cet attaquant. Et c'est vrai que la complémentarité entre les deux joueurs a parfaitement fonctionné. Quand tu regardes un peu Benzema, pour moi, c'est déjà des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Et moi, ce qui me marque le plus chez ce joueur, c'est avant tout son intelligence de jeu et sa qualité des déplacements. Son intelligence de jeu, parce que quand tu regardes un petit peu ses statistiques, il est capable d'être buteur, mais aussi d'être passeur. Et je pense que c'est là aussi où ça fait sa plus grande qualité, parce que pour moi, c'est un joueur incroyable dans le fait de s'adapter à différentes situations. Et il s'est adapté à différentes situations quand il était au Real Madrid. C'est-à-dire quand il a fallu jouer avec Cristiano Ronaldo, c'est la star de cette équipe du Real Madrid. Et ben lui, il a eu cette intelligence, cette qualité de déplacement, cette complémentarité qu'il a pu avoir avec Ronaldo pour faire un duo fantastique. Et moi, sur ce côté-là, je trouve hyper respectable. Et ce qu'on oublie aussi, peut-être, c'est que dire que dans le monde du sport, dans le monde du football, ce qui est le plus difficile, c'est la régularité dans les performances. Et ça fait plus de 10 ans qu'il est au Real Madrid. Et Karim Benzema, il est régulier depuis plus de 10 ans.
Justement, il y a quand même, pour moi, une particularité sur les 4 dernières années, que seul Benzema, en ce moment, et peut-être même sur ces dernières années, je ne vois pas un joueur aussi talentueux que Benzema, ne pas avoir les obligations, je ne dis pas les contraintes, les obligations, quand il y a une coupure internationale, d'aller avec sa sélection. Ce qui veut dire que pour moi, sans lui enlever ses mérites, ni un brin, ni un millimètre de sa classe, sur les 4 dernières saisons, Benzema, qui a cette régularité depuis 11 ans au Real Madrid, a été dans une situation où... Même si c'était triste, de ne pas aller avec l'équipe de France. Cette coupure internationale lui a permis de continuer à être régulier,
de pouvoir bien
récupérer et de pouvoir être performant et de pouvoir avoir cette régularité. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
On est d'accord.
Mais je pense que ça contribue au fait qu'il puisse justement être sous-estimé, comme le disait Lionel tout à l'heure aussi. Ça a pu le desservir aussi quelque part, Roland. S'il avait été performant et même présent, pour être performant, il faut qu'il soit présent en équipe de France, peut-être qu'il aurait été un peu plus valorisé. Benzema, il a quand même raté, par exemple, le sacre lors de la dernière Coupe du Monde, par exemple, de l'équipe de France, la finale de l'Euro aussi. Tu vois, il a quand même été absent de ces moments-là. Ça contribue peut-être au fait que certains estiment qu'il peut être sous-estimé. Je sais pas.
Moi, je le vois comme ça, personnellement.
Je suis d'accord avec toi, mais regarde, quand tu regardes, par exemple, un joueur comme Lionel Messi, il a jamais été brillant avec sa sélection, mais Dieu seul sait qu'on sait que c'est un génie.
Oui, et. Mais là, il. Moi non plus, j'ai pas compris.
Ça veut dire que c'est pas parce que t'es pas avec ta sélection que t'es pas performant.
Oui, mais la sélection,
tu peux pas reconnaître la qualité d'un joueur.
Non, mais c'est pas ça. Mais Benzema,
il est dans la sélection.
Voilà,
il est dans la sélection.
Il a jamais été mauvais en sélection, Benzema. Même s'il a été meilleur dans certaines périodes et tout. Moi, ce que je me rappelle, par exemple, une Coupe du Monde, je me rappelle pas de toutes, mais celle de Benzema, quand on est au Brésil et qu'on perd 1-0 contre l'Allemagne, je suis désolé. Tout le monde était content de cette Coupe du Monde. Quand par exemple, il y avait la possibilité de se reposer contre l'Équateur qui veut à tout prix jouer et que finalement il rate son match contre les Allemands. Il y a beaucoup de regrets. Aussi, mais ce que fait Benzema depuis une douzaine d'années, c'est tout simplement difficile de faire aussi bien, même si des fois ça n'a pas été parfait.
Alors, c'est pour ça, je pense qu'il est toujours, et ça c'est la reconnaissance, qu'il est toujours dans la plus grosse équipe du monde. Ouais. S'il n'était pas reconnu, il y a longtemps qu'il l'aurait dégagé.
Alors Fredo, c'est vrai que tout à l'heure, tu l'avais dit aussi, et on en a un petit peu parlé jusque-là, est-ce que le fait aussi que peut-être certains sous-estiment Karim Benzema, c'est pas Cristiano Ronaldo finalement.
C'est-à-dire, je comprends pas.
Il était dans l'ombre finalement de Cristiano Ronaldo.
Bien sûr. Bien entendu. Parce que Benzema et moi, on en a souvent discuté, quand il jouait, et quand il avait une occasion, il regardait d'abord Cristiano Ronaldo pour lui passer la balle. Maintenant, il prend sa chance directement. C'est-à-dire qu'il a dû se déshabituer.
Il en a souffert, ça, un petit peu, Fred. Hein,
non,
au début,
pas tant que
quand
ça. Non.
J'ai trouvé 7-8 matchs où il cherchait un peu, il n'arrivait pas à trouver sa place de leader d'attaque et
Retrouvé sa place après.
Oui.
Quand tu joues pendant 9 ans à côté d'un des meilleurs joueurs de l'histoire et que tu l'assistes,
assistant, c'est ce que je voulais
bien
dire.
Bien entendu. Mais sincèrement, enfin.
Comme disait Laure, il s'en est remis intelligemment et il a su, parce qu'il a su courber les chines, rechanger son football, jouer un peu plus.
Retrouver son football, comme tu dis,
Lionel, aussi, ce qui est important, c'est que, à la base, donc, Karim Benzema, c'est un numéro 9. Et on sait que les attaquants, souvent, ils sont un petit peu individualistes. Et lui, s'est mis au service du collectif. Et ça, c'est quand même aussi louable par rapport à lui.
Ouais, t'as raison.
Mais toi, tu trouves que c'est vraiment un pur 9, Benzema? C'est un 9,5 bon. Presque.
Moi, c'est un 9 que j'adore.
Ouais, moi
c'est un 9 que j'adore, mais qui. Il incarne, en fait, le profil de joueur que j'affectionne particulièrement.
Rappelons-nous les débats dans la période Giroud-Benzema, Giroud, chacun avait sa vision. La mienne, c'était de faire jouer les deux. Une fois, ils ont joué tous les deux, on n'en a mis que 5 contre la Suisse, mais par contre, ça marchait tellement bien qu'on ne l'a plus refait. Donc c'est vrai que par moment, c'était quand même difficile à suivre. Quand, par exemple, je me rappelle de Benzema utilisé dans ce qui a été un record là, de 1000 et quelques minutes sans marquer un but. Mais jouer dans un 4-3-3 en étant le numéro 9 tout seul avec le premier coéquipier à 40 mètres à droite, à 40 mètres à gauche ou 40 mètres en dessous, c'était difficile aussi de jouer. Par contre, en retrait d'un Giroud, je le vois là, moi, le poste de Benzema.
C'est un 9,5 pour toi aussi, plus.
Pour moi aussi.
Ouais.
Mais qui peut jouer 9, bien évidemment.
Oui, mais dans le football moderne, moi je pense qu'il est le numéro 9 moderne et dans un football aujourd'hui, qui doit être moins déchiffrable parce que je pense que les défenses sont de mieux en mieux, que les défenseurs centraux sont de plus en plus intelligents, savent de mieux en mieux lire les trajectoires des attaquants. Donc des attaquants de mouvement comme Benzema sont très utiles aujourd'hui, je pense.
Enfin, oui. Si tu regardes Fredo, par exemple, un attaquant comme lui, t'as Firmino. Firmino, voilà. Pour moi, il est un peu comme Benzema.
Exactement.
Il se met au service aussi des deux autres attaquants, mais il a un rôle tellement important. Et ça, pour moi aussi, il incarne effectivement le poste du numéro 9 moderne.
Et je vais terminer par une réflexion.
Il doit avoir une complémentarité avec les autres attaquants.
Et je vais terminer par une réflexion que m'a faite un jour Carlo Ancelotti. Il m'a dit, tu sais Fred, sans Benzema, la BBC ne marcherait jamais.
Ce ne sera plus la BBC, oui.
Non, mais à l'époque, vous savez.
Forcément.
Et c'est quand il gagne...
Du coup, il faut que tu enlèves un B.
Non,
avant que tu recrutes un autre mec qui est avec un B, tu vois. Un autre attaquant avec un B, Berbatov,
d'accord,
par exemple.
D'accord, okay.
Tu l'as ou pas ? En fait, BBC, c'est Berbatov, Bale, Cristiano Ronaldo.
Berbatov, quelle belle interview il nous a fait.
Ouais, t'as vu, c'est beau ou pas ? Merci en tout cas. Fred, tu restes avec nous, parce que dans quelques instants... Alors ça, mon gars, le fuego que ça a foutu sur Twitter, cette histoire. Qui, pour vous, est le plus gros gâchis du foot ? Alors, Laure Le Payeur a choisi le sien, Roland Courbis aussi, Lionel Charbonnier, et toutes nos drôles de dames également ont choisi leur plus gros gâchis du foot également. On attend vos propositions également au 32-16. Et puis, on vous attend aussi pour le quiz. Et oui, à la fin de cet after, il y aura un quiz. On vous a fait un mix entre un thème qu'on a abordé hier, j'en dirai pas plus, d'autres thèmes qu'on va aborder aussi aujourd'hui. Bref, un quiz préparé aux petits oignons avec Arthur Robert. À tout de suite.
RMC. J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Verratti, là tu la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Lionel Charbonnier, Laure Le Payeur, Roland Courbis, Fred Hermel qui était avec nous il y a quelques instants pour le débat lancé par Berbatov lors d'une interview. Karim Benzema est-il sous-estimé ? Alors ça enflamme bien entendu le plateau de l'after. Et nous ont rejoint également Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Julien Laurence également.
Salut,
est
Simone.
Avec nous. Salut Julien.
Salut à tous.
Ça va Julien ?
C'est Julien.
Salut Julien.
Super.
Salut.
Salut messieurs.
Alors, suggestion qui nous est venue du hashtag Mon After, vous le savez, hein, vous faites des propositions de thèmes, de thématiques, de sujets, de débats pour l'after tout au long de cette période de confinement, et pas que d'ailleurs pendant la période de confinement. Et alors ça, mon gars, ça a enflammé Twitter pendant toute l'après-midi. Les plus gros gâchis du foot, voilà, ils sont passés à côté de leur carrière malgré leur talent immense. Voilà, c'est une idée qui a été suggérée. Qui pour vous est le plus gros talent du foot ? Alors, me faites pas une liste avec 10 mecs. Choisissez-en un, c'est pas facile, mais il faut en choisir un. Alors, nos consultants, bien entendu, notre Dream Team, nos drôles de dames également en ont choisi. Vous en avez choisi également, vous nous appelez au 32-16 pour nous les donner. Tiens, on va commencer par toi, Roland. Qui pour toi est ton plus gros gâchis du foot ?
Si tu veux, il y en a toute une liste, bien évidemment, mais bon, je n'ai pas choisi un joueur que je n'ai pas eu le plaisir de côtoyer. J'ai choisi un que j'ai eu justement le plaisir de côtoyer, c'est Paganelli. Paganelli que j'ai vu démarrer à l'âge de 14-15 ans à la Maison des Jeunes d'Avignon et dans un tournoi à Montaigu, un tournoi minime, c'était tout simplement exceptionnel ce qu'il pouvait faire. Si on peut faire la comparaison des joueurs français que nous avons connus ensuite, je pense pas que Paganelli aurait été inférieur à Ribéry, qui pour moi a fait partie des très bons joueurs. Et j'avais essayé à Toulon de remettre en place un duo avec Laurent Rousset, et malheureusement ça avait pas marché, parce que peut-être, j'ai dit bien peut-être, on avait été un peu trop pressé avec lui, on l'avait utilisé un petit peu trop tôt. Donc je trouve que c'est dommage, il aurait pu faire une carrière extraordinaire.
Alors c'est vrai que Paganelli, c'est une autre époque, hein, mais il y avait une grosse hype autour de lui. Hein. C'était vraiment le petit prince, hein, le petit génie du foot français à l'époque, hein, Roland.
Ah oui, c'était quand même exceptionnel parce qu'il avait les qualités de dribble, il était quand même petit mais assez puissant, vif, malin comme un singe. Donc c'était vraiment quelque chose d'époustouflant et malheureusement ça n'a pas marché longtemps. C'est pour moi un énorme regret, évidemment que pour lui ça doit être encore beaucoup plus que pour moi, mais c'est vrai qu'il est passé à côté d'une énorme carrière.
Ouais, ça vous parle Paganelli ou pas les
bien
amis
sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Et avant sa carrière médiatique, hein. Moi je me souviens de lui justement comme l'un des grands espoirs du football français. C'est comme ça que je l'ai connu moi.
Ouais. Le Lionel.
Oui, bien sûr. Moi, je le revois encore quand le coach en parle. Je le revois là sur le côté faire des dribbles, des
avec
des
cheveux longs.
Ah ouais, non, c'était vraiment un régal. Tu te demandes, trapu comme ça, il y avait la puissance, il y avait la finesse. il t'inventait, il était capable. Voilà, il fait partie de ces joueurs qui étaient capables de t'inventer. Fred en parlait tout à l'heure, quelque chose de neuf. C'est-à-dire que tu sais jamais comment les attraper à part avoir un lasso à côté de toi. Et puis à un moment donné, mais quand il marquait pas, il y avait des coups francs dangereux. Il y avait non, c'était. Enfin, moi, je suis d'accord avec le coach.
Mais Roland, tu disais peut-être que ça allait trop vite. Comment t'expliques le fait que justement il est pas confirmé?
Trop jeune?
Non. Quand je te dis trop vite, quand on l'a utilisé trop vite,
oui.
Trop tôt.
Ouais.
Donc je pense qu'on
quoi,
aurait
trop de
pu
pression, tu penses, trop vite
être un peu plus prudent. Et ensuite, je vois par exemple Laurent Rousset qui joue au poste de numéro 9 en plus et qui se fait péter les croisés avec une anecdote où il termine le match. Alors que normalement, quand tu te pètes les croisés, ben, tu sors sur une civière. Non, ben, je ne sais pas par quel miracle, il avait terminé le match. Et après, évidemment, il s'était effondré dans les vestiaires. Donc, pour ce qui est de Paga, je pense qu'on l'a utilisé trop tôt, dans le trop haut niveau, trop tôt.
Qui pour vous est le plus gros gâchis du foot? On attend vos suggestions au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Tiens, Simone, qui pour toi est ton plus gros gâchis du foot?
Écoute, moi j'ai dû faire quand même un vrai top 5.
Non, t'en choisis qu'un là, qu'est-ce que tu me fais? Il n'y a pas de top 5 ici.
Non, mais je sais, mais après, écoute, laisse-moi raconter un peu l'histoire, parce que il y en a plein, et mon cœur était vraiment partagé, parce que sûrement une des plus grands gâchis, c'est Antonio Cassano, il y a Mario Balotelli, ah ouais, bien sûr, ouais, qu'on s'imaginait faire une carrière extraordinaire, un joueur magnifique, mais qui n'a jamais été à l'entente pour moi, c'est Alvaro Recoba, avec son pied gauche. Mais l'histoire que je raconterai, c'est celle du plus grand. Pour moi, c'est lui qui aurait dû devenir...
Le plus gros, même.
Il a été aussi le plus gros, oui, à un certain moment. Mais il devait être l'héritier du phénomène, l'héritier des Ronaldo. Il n'y avait qu'une, et c'était Adriano.
Ah oui.
Il est bien l'imperator.
Ah oui.
L'imperator, l'empereur.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors, Simone? Alors, c'est vrai qu'en gros, il a arrêté, on va dire qu'il a arrêté de jouer, on va dire, de façon régulière et performante à avant 30 ans, à 28, 29 ans, Adriano.
Bah, même à 26, ah, on ouais, peut tu... dire. Ouais. Parce que lui, à 26, c'est quand il fait son première, c'est après son retour au Brésil. Lui, il est un joueur, l'histoire, c'est très simple, c'est une de ces joueurs qui sort du Brésil très pauvre, sort de la favela, Villa Cruzeiro, que quand il était petit, il allait dans la rue à nettoyer les chaussures des gens. Il travaillait comme ça pour aider sa famille, pour aller aux entraînements. Il devait vendre des gâteaux qu'il préparait sa grand-mère pour pouvoir payer les bus pour aller à s'entraîner avec Flamengo. C'est une histoire un peu comme il y en a plusieurs au Brésil. Et après, l'histoire, ça commence à devenir intéressante, belle, extraordinaire. On peut dire, à un certain moment, le 14 août 2000 ans, il a 19 ans, il vient d'arriver à l'Inter, et il y a cette match amical dont je me souviens parfaitement face au Real Madrid, et c'est un partout, il rentre à la fin du match, il a 6-7 minutes à jouer, et il y a un coup franc totalement, vous savez, ce match amical, ce coup franc, il y avait Seedorf qui devrait frapper, il y avait aussi Materazzi qui avait un bon pied gauche qui marquait souvent sur coup franc, et Hector Cooper, l'entraîneur de l'Inter, dit non mais bon, laissez tirer à Adriano, petit jeune, et Adriano frappe une coup franc incroyable avec son pied gauche, une vitesse, une force.
C'est quelle
puissance.
Année ça, Simone?
C'est 2000 ans, il avait 19 ans. Match amical, et donc il marque 7 buts pour la victoire de l'Inter face à un Casillas qui se retourne et sait même pas d'où est parti ses ballons, et on imagine que c'est le début d'une grande histoire. Lui après il marquera aussi pour son début en championnat face à Venezia, l'Inter était égal là aussi, même un partout, il marque le but décisif, mais cette année-là Adriano n'arrive pas à s'imposer. Il part en prêt à la Fiorentina, il marque 6 buts en 15 matchs qu'il joue en prêt avec la Fiorentina qui descendra en Serie B cette saison. Mais encore, ça suffit pas à l'Inter, même si cette saison-là, elle vit un drame. L'Inter, c'était l'année du 5 mai, donc les départs, les titres perdus à la dernière journée, les départs de Ronaldo, ça suffit pas encore pour l'Inter pour se convaincre qu'il va devenir quelque chose d'extraordinaire, ce joueur. Il part donc à Parme. En Parme, il fait une saison et demie, il marque 28 buts. Il devient avec Adrian Mutu les duos les plus prolifiques de la Serie A sur cette saison-là. Il trouve un entraîneur comme Cesare Prandelli qui commence à croire énormément en lui. Et en janvier 2004, il revient à l'Inter. L'Inter avait une option, l'avait fait partir pour la moitié, c'était la copropriété à l'époque, les reprendre. Et là, dans son, et là commence, on peut dire, à devenir Adriano l'Empereur. Avec ses buts, il fait arriver l'Inter quatrième. Ça commence une histoire magnifique aussi avec les Brésil. Il ouais. joue la Copa América 2004, que le Brésil gagne contre toute attente.
Simon, si je me rappelle bien, il gagne la Coupe América, ok. Mais après, dans ce fameux match contre l'équipe de France, le Brésil, je me rappelle plus qui était le sélectionneur, joue avec deux numéros 9, dont lui, quatre attaquants, une équipe offensive, et contre la France, il se dégonfle. Je crois que c'est 2006. Adriano qui sort, et c'est Juninho un milieu de plus et un numéro 9 de moins. C'est pas ça?
Ça c'est la Coupe du Monde 2006 qui oui. est un peu le. C'était déjà les débuts de la fin, on peut dire, pour Adriano, parce que là vraiment il a vécu ses années meilleures entre 2004 et 2006.
C'est parce qu'il a fini complètement ça?
Bah alors ce qu'il a fini vraiment, alors l'histoire qui devient triste, c'est que lui quand même à 22 ans, donc il marque 5 buts si je ne me trompe pas dans cette Copa América, un but en demi-finale, un but en finale, les Brésil donc gagnent, lui arrive 6e au Ballon d'Or, mais 10 jours plus tard environ de la fin de la Copa América, il rentre en Italie, il va faire un match des préparations avec l'Inter, c'était les trophées qu'on jouait l'été. Il y avait une période où l'Inter jouait beaucoup de trophées avec trois équipes, Juve, Inter Milan, trois trophées avec des matchs de 45 minutes. Mmh. Et cet été-là, c'était 2004, lui, le 14 août, à la fin du match, il reçoit un appel du Brésil, il reçoit la triste nouvelle que son père est mort. Adrien a 22 ans, son père en avait 44, il était très très proche, mmh. c'était vraiment... toute sa vie. Une père qui déjà avait eu beaucoup de soucis parce que dans cette favela, il avait pris une balle dans la tête.
C'est là qu'il part en vrille, hein, Simone. Ça a été la cassure à ce moment-là.
Là, ça commence. Ça commence la fin. Même lui, suranné encore, il s'accroche. Il s'accroche, il fait encore une Confédération Cup extraordinaire à la fin de la saison suivante. La saison après la mort de son père, même s'il doit partir, il rentre au Brésil, ouais. il revient plus tard, il arrive avec pas beaucoup d'entraînement, même s'il fait quand même une belle Ligue des Champions. Il fait une belle saison, il a 28 buts. Mais il commence à sortir, il commence à boire, il commence à arriver bourré à l'entraînement. Les présidents de l'Inter Moratti commencent à envoyer des gens les suivre ou l'accompagner dans les soirées pour chercher de le limiter. Il y avait une phrase de Javier Zanetti qui disait: on était tout proche de lui. Les jours où il a reçu cet appel, il a cassé les téléphones contre un mur. Il devait rentrer des bars et l'Inter, donc il a passé tous les voyages à pleurer, toute la journée à pleurer, parce qu'il vraiment, il avait perdu sa vie. Sa famille, quand même, sa mère, il avait une frère de 4 ans, vient en Europe pour chercher d'être à côté de lui, de l'aider. Mais vraiment, lui, on peut dire que avec la mort de son père, il a perdu ouais. toute la confiance qu'il avait en lui. Il restera quand même encore pour une saison ou deux extraordinaire. À début de septembre, un mois après avoir perdu son père, il fait une frappe incroyable face à Palerme à 140 km à l'heure, qui serait la frappe la plus puissante de l'histoire de la Serie A, la cinquième la plus puissante dans l'histoire. Là, il prend la barre transversale, malheureusement, on peut comme dire que lui, il arrive toujours à côté ouais. d'être les plus grands. Alors, et après, à la fin, ça commence vite parce que Mancini ne veut plus de lui, il rentre au Brésil, il fait un prêt de 6 mois, il revient, il y a Mourinho qui croit en lui encore, c'est la saison 2008-2009, mais on l'a alors, déjà ça, perdu. L'Empereur s'est perdu.
Ouais, alors sache en tout cas que parmi les noms qui ont été le plus lancés sur le hashtag RMC Live et sur le hashtag même mon after, je pense que le nom d'Adriano, c'est celui qui est le plus revenu hein, parmi les plus gros gâchis du foot. Hein. Tiens, avant d'avoir le tien...
Oui, parce que lui, pour finir, attends, c'est une chose. Parce que lui, après, quand on parle de 2006, la Coupe du Monde, lui arrive à devenir père juste avant. C'est en 2005, je pense. Et après, dans ces périodes, il commence aussi une rupture avec sa compagne, qui se finira totalement l'histoire en 2007. Et donc, il se retrouve en quelques années d'avoir perdu son père et de devenir père et avoir perdu son enfant. C'est vraiment une situation dont il n'arrivera plus à sortir ouais. à niveau mental. Et malheureusement, tous ses coéquipiers qui ont joué avec lui l'ont dit souvent, lui, il était souvent perdu totalement dans sa tête. Mais je lui dis souvent, un monsieur qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic, qu'en parlant de tous les joueurs qu'il a côtoyés, il a dit sans doute les plus forts que j'ai jamais croisés avec moi, c'était Adrien.
Ouais. Adriano, donc plus gros gâchis du foot pour Simonetti. On va accueillir Karim qui nous a appelé au 32-16. Vous aussi, hein, appelez-nous pour nous dire qui pour vous est votre plus gros gâchis du foot. Salut Karim.
Ouais, salut à tout le monde, salut à Roland.
Salut Karim. Oh, macho.
Comment ça va la famille
et toi mon ami? Alors, Karim moi, qui ch'tit comme moi.
Franchement, j'en ai plein. Bon, je vais les citer vite fait. Je veux comme ça va aller vite. J'ai Denilson.
Ouais.
J'ai Ariel Ortega.
Ouais, Ortega.
J'ai Alessandro,
il fait une carrière de malade avec l'Inter Porto Alegre notamment. Il gagne tout là-bas.
Moi je m'en souviens, pour pouvoir commencer par D'Alessandro, je m'en souviens, il était de la génération avec Saviola, Colocini, Maxi Rodriguez qui gagne la Coupe du Monde d'Argentine en moins de 20. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ouais, je m'en souviens.
Ensuite, il était convoité par la Juve, il part à Wolfsburg, je sais pas si. Ouais, je comprends pas pourquoi. Et après, regarde, Nico, franchement, il va à Portsmouth, il se retrouve au Real Sarajevo.
Ouais, mais en Amérique du Sud, il fait une carrière phénoménale. Il est l'un des plus beaux palmarès. Mais si tu devais en choisir un, tu prendrais qui, Karim? Ton plus gros gâchis? Ortega.
Parce qu'Ortega, c'était franchement un énorme talent. Franchement, pour moi, je m'en souviens, je l'ai connu à River. Et franchement, il était là à la Coupe du Monde. Moi, je l'ai connu à la Coupe du Monde à River. Il participait à la Coupe du Monde 94, il est là. Même si l'Argentine, ils sont éliminés en 8e, 98, il est là. Et après, franchement, quand tu le vois, il arrive en Europe et regarde bien sa carrière. Il reste que dans les clubs, je crois qu'il dépasse pas un an. Je sais qu'il a joué à Valence, Fredo, tu vas me confirmer ça.
Ouais, ouais, bien sûr.
Il fait un an à Valence, un an à la Samp et un an à Parme.
Voilà, pour moi, c'est un énorme gars. J'aimais bien le joueur. Il y avait un
celui qu'on appelait le petit âne. Ouais. El Burrito.
Ouais, c'est un énorme talent, honnêtement. Franchement, c'est. Je m'attendais vraiment qu'il allait faire une énorme carrière. Franchement, lui.
C'est pas bête.
Je suis vraiment déçu, franchement.
Oui, et pourtant, c'est vrai qu'il est près des 90 sélections.
Avec Parme en 99, c'est une des plus grandes équipes d'Europe à l'époque.
Mais il marque pas beaucoup avec Parme à l'époque, Simon.
Mais non, mais parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Et après, il y a la façon de... Arriver dans une grande équipe à l'époque, Parme l'était, c'est pas impossible. Après, mériter cette grande équipe, il faut avoir des choses qui vont au-delà de la force technique et des qualités.
Mais j'ai joué contre lui quand il était à Parme, mais je m'en souviens pas.
Ouais, 99-2000. Ouais,
j'ai joué avec les Rangers.
Ouais, c'est possible. Merci à Karim de nous avoir appelé.
Salut, amigo.
Ortega, plus gros gâchis du foot pour Karim qui nous a appelé au 32-16. Laure, alors ça va parler à Fred, toi, ton plus gros gâchis du foot, Laure.
Eh ben, moi, mon plus gros gâchis, c'est Brand Krtić. Parce que c'était un joueur qui a été formé à la Masia et qui était annoncé un peu comme le futur Messi. Parce que déjà, il avait un peu le même profil. Un petit gabarit, centre de gravité hyper bas, assez doué techniquement. Et puis surtout, c'est que il correspondait un petit peu aussi au profil de Messi, parce que par rapport à la formation, etc. Et puis surtout, c'est que dès le début, il a eu beaucoup de records à son actif parce qu'il était très précoce. Il avait été le plus jeune buteur en Liga du club. Il avait aussi disputé un match en Ligue des Champions. Il faisait partie des plus jeunes. Et puis, jusqu'à 19 ans, on le voyait vraiment comme un petit crack où il passe la barre des 100 matchs avec le Barça. Et puis derrière, finalement, on va le perdre. Il avait été lancé par Richard. Et quand il va y avoir Pep Guardiola, je pense qu'il va moins rentrer dans les plans de Guardiola. Bah aussi parce qu'il y avait aussi de la concurrence. Hein, faut pas se voiler la face à ce moment-là à Barcelone. Parce que forcément, comme sur le front d'attaque, t'as Messi, Villa, Pedro, t'as Sanchez qui arrive. Il va être vite barré. Et puis derrière, on pouvait penser que même il pouvait rebondir peut-être ailleurs, et il va se perdre un petit peu parce qu'en Italie, il va complètement se planter, il ne passera jamais à la Roma ni à l'AC Milan. Du coup, l'AS Roma va pas lever l'option d'achat, il va revenir à Barcelone, mais Barcelone, il ne rentre toujours pas dans les plans, ils vont l'envoyer à l'Ajax. Et puis derrière, il va se retrouver dans le championnat en Stoke, et là, il va avoir une grave blessure et finalement...
Mais toi, tu y croyais vraiment, Laure, parce que toi, tu le voyais vraiment comme un crack, ce joueur?
Ouais. Moi, au début, parce que c'était un peu la génération, les jeunes joueurs, j'aimais bien regarder. Et en fait, je pensais que, franchement, sur ses premières prestations, moi, je le voyais vraiment comme un grand joueur. Et par contre, maintenant, avec un petit peu de recul, je m'aperçois que c'était le profil de joueur qui, pour moi, s'inscrivait parfaitement dans la philosophie de jeu de Barcelone. Et quand tu vois un petit peu les flops qu'il a fait dans d'autres championnats, tu t'aperçois qu'il était vraiment le morphotype du joueur du Barça, mais que derrière ça a été fondamentalement très difficile pour lui de s'imposer dans d'autres championnats. Et d'ailleurs il en a connu beaucoup, hein, les autres championnats, parce qu'il a fait l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Tu sais, aujourd'hui il est à Montréal.
Mais en fait ce qui se passe, c'est que, et lui-même l'a révélé, il avait un gros problème psychologique, il avait des attaques d'angoissia, il avait des angoisses, mais des angoisses à paralyser un mec. C'est-à-dire que psychologiquement, ça a été très très dur tout au long de sa carrière. Et je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu disais au départ. il a été monté en épingle comme savent le faire les médias espagnols. C'était le nouveau Maradona, quoi. Et ça, il a jamais pu le supporter. Donc c'est très dur quand on est dans des pays qui adorent le foot et qui peuvent exagérer sur les qualités d'un joueur. Et ben lui n'a jamais pu tenir ce il n'a jamais supporté le fait de ne pas concrétiser ce qu'on attendait de lui. Et il a toujours très mal vécu. Et il y a peu de temps, il me semble, en tout cas il y a pas très longtemps, il a révélé dans une interview qu'il avait un gros problème psychologique, qu'il avait des angoisses terribles qui lui ont finalement empêché de profiter de ses grandes qualités footballistiques. Parce que je suis d'accord avec Laure, il était vraiment très fort, ce gamin.
Bojan Krikic, le plus gros gâchis de l'histoire du foot pour Laure Le Payeur, pour Roland Courbis, c'est Paganelli, pour Simone Rovera, c'est Adriano. Dans quelques instants, Lionel Charbonnier va vous donner son plus gros gâchis du foot. Ce sera le cas de Julien Laurence, de Fred Hermel également. Et puis on a Pascal et Roméo qui nous attendent aussi au 32-16. Venez les rejoindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Villas.
Laure Le Payeur, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Simone Rovera, Julien Laurence et Fred Hermel sont également avec nous. On vous lance cette question, suggestion qui est venue sur le hashtag Mon After, qui pour vous est le plus gros gâchis du foot. On va accueillir Pascal au 32-16. Et tu vas voir mon Lionel. Je crois que Pascal, son plus gros gâchis du foot, bah c'est le même que toi. Salut Pascal.
Bonsoir.
Salut Pascal.
Salut Pascal. Salut Pascal.
Alors Pascal, qui pour toi est ton plus gros gâchis du foot ?
Alors déjà la première chose, c'est que moi je suis né en 82, donc j'ai pris parmi les joueurs que j'ai connus, c'est-à-dire à partir des années 90, milieu des années 90. Et en fait, c'est un nom qui m'est venu tout de suite quand vous avez fait cette suggestion. Mmh. Alors pour moi c'est Johan Gourcuff.
Ah bon, on est deux.
Alors pourquoi, vas-y Pascal.
Bah, Johan Gourcuff, c'était, il me semble que c'était un joueur de la trempe des meilleurs meneurs de jeu qu'on a pu connaître ces deux dernières décennies, quoi. Je me souviens, enfin, quand il était là, quand il était à Bordeaux, Bordeaux était plus fort que la Juve, Bordeaux était plus fort que le Bayern, ils allaient gagner tranquille là-bas, ça étonnait presque plus personne. Et alors, je pense en plus qu'il avait, à un moment, il a dû transcender l'équipe, parce que je me souviens d'un match que Bordeaux joue contre la Juve, où justement il n'est pas là, à Bordeaux, et Bordeaux gagne quand même. Et donc je pense quelque part que toute l'équipe était un petit peu transcendée, et d'ailleurs, il s'est mis à décliner pas longtemps après, et assez vite, c'est le reste de l'équipe qui s'est mis à décliner avec. Voilà, donc moi après, je pense, hein, bon, ça c'est un peu mon avis et on n'est pas forcément d'accord. Je pense qu'il a été un peu cassé par son équipe, hein, son expérience en équipe de France.
Mmh. Lionel, complète, pourquoi t'as choisi Gourcuff, toi ?
Bah, pour les mêmes raisons que Pascal. Je pense qu'on l'attendait. Moi, je le voyais aussi comme pas un Zidane, mais un petit Zidane juste en dessous, c'est-à-dire qu'on perdait Zizou et là tu te retrouvais avec un mec, parce que Zidane c'était vraiment comme être juste en dessous de Zidane, c'était déjà une très très belle carrière, c'est un truc magnifique. Je voyais sa gestuelle, je voyais sa vista, la technique en mouvement, il avait une main à la place du pied, c'était franchement une clairvoyance, il te sortait de situations comme Zizou des fois, juste avec même sans toucher le ballon, juste la gestuelle faisait qu'il embarquait le mec d'un côté. Il partait de l'autre.
Ce qui fait l'année du titre en 2009, c'est époustouflant.
Exactement. Mais ça a été un petit peu le souci. Moi, ce qu'il a perdu après, tout le monde dit c'est son physique. Moi, je dirais c'est son mental et son entourage. Je m'en étais entretenu justement pendant qu'il était à Bordeaux avec Lolo. Blanc et qui me disait il y a quand même un petit souci avec le papa, quoi, qui est trop interventionniste et on sait pas trop.
Penses que c'est ça le problème vraiment?
Pas que ça, il y a pas eu que ça, il y a eu aussi à Bordeaux, Pascal il doit connaître le Calliocho et compagnie, et ça
s'entendait bien aussi avec
Kavenaghi.
Non, le numéro 9,
Chamakh.
Avec Chamakh, donc, ouais. Mais le soir, il s'entendait bien avec Kavenaghi aussi. Moi, je les avais rencontrés. Et ça l'a perdu. Ça l'a perdu à Milan. Ça l'a perdu. J'en ai parlé avec Pippo Inzaghi, avec Rino Gattuso, qui m'a raconté les trucs. Il s'est perdu comme ça. Mais il s'est perdu aussi, et Pascal a entièrement raison. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas le mental assez fort pour affronter cette cette fosse au crocodile, là, cette fosse au lion, je sais pas. C'est vraiment un milieu de requin. Et il a eu en équipe de France un délit de belle gueule. C'était le il était pas, tu vois, il était pas dans le même move que les autres, que les Ribéry et compagnie. Et ça l'a desservi. Il avait pas le mental assez costaud pour jouer des coudes. Ouais. Et voilà, il est passé à travers comme ça. Mais son mental, voilà, après, l'a emmené à droite et à gauche, plus à gauche qu'à droite. Et donc son physique n'a pas suivi. Il a craqué de partout et c'était très compliqué pour lui.
Et donc Gourcuff, plus gros gâchis du foot pour Lionel et pour Pascal. Merci de nous avoir appelé, hein, Pascal, au 32-16. Julien Laurence, on va passer à toi, ton plus gros gâchis du foot. T'as choisi qui, Julien?
Alors moi j'ai choisi Abou Diaby, l'ancien joueur de l'équipe de France, d'Auxerre et d'Arsenal, bien sûr. Alors j'aurais pu en choisir plusieurs, un peu comme vous tous. C'est vrai qu'en Angleterre, ils ont tendance, les Anglais surtout, à dès qu'un jeune arrive, un jeune Anglais, à en faire des tonnes et des tonnes, et ça parfois les dessert beaucoup. Mais pour Abou, c'est différent parce que déjà on a été très proche quand il était à Arsenal. J'étais déjà arrivé à Londres quand lui est arrivé en janvier 2006 à Arsenal. Il avait encore 19 ans, il avait pas eu encore 20 ans. D'Auxerre, après deux saisons à peine chez les pros à Auxerre, et c'est vrai qu'il était arrivé tout jeune. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est ce que les gens en disaient. C'est-à-dire que d'Arsène Wenger à Thierry Henry, à Gaël Clichy, même aux Anglais dans l'effectif, c'était « Waouh ! C'est quoi ce joueur qui vient d'arriver ? C'est un talent extraordinaire. » C'est-à-dire que même les joueurs à l'entraînement te disaient après « Mais lui, c'est un truc de fou. Ouais. On n'a jamais vu ça. » Et donc on a appris à se connaître beaucoup avec Abou. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'étais là le jour où tout a basculé finalement, parce que ces six premiers mois sont assez encourageants, même très positifs. Moi, je trouve, pour quelqu'un qui a 19 ans, qui a finalement pas beaucoup joué en Ligue 1 et qui arrive à Arsenal et qui commence déjà à s'imposer lors de ces premiers mois, pour moi, c'était déjà énorme. Et puis on va à Sunderland. C'était le 1er mai 2006.
Dans toutes ces blessures, excuse-moi, il y a quand même une explication, une reprise trop tôt, une blessure, une rééducation mal faite. Il y a eu un problème. Il y en a eu beaucoup de blessures, mais les premières qui après, malheureusement, donnent la possibilité aux autres d'arriver. C'est quoi sa première blessure ou ses premières blessures?
Justement,
il n'y avait pas les aducs.
J'ai arrivé, coach. Non, j'arrivais à la première blessure, justement, c'est ce 1er mai 2006. Je m'en rappelle très bien, c'était à Sunderland. J'étais allé à ce match à Sunderland. Arsenal gagne 3-0, Diaby est titulaire, il y a aucun souci, il joue avec Fabregas au milieu, c'est la régalade. Et à l'heure de jeu, un jeune joueur de Sunderland, Dan Smith, entre en jeu. Lui jouait pour un contrat pro. Il n'avait pas encore contrat pro. Il était encore pour contrat stagiaire. Il entre et à 2 minutes de la fin du match, il met un tacle à Abou, mais un tacle comme rarement tu vois à ce niveau-là. Une violence, mais une méchanceté incroyable. Et là, tout de suite, Abou, il dit, j'ai senti que la cheville, elle était partie, et j'ai senti que c'était très, très grave. Et effectivement, il y a fracture de la cheville sur ce tacle. En fin de match, tu gagnes 3-0, t'es tranquille, il y a plus rien, et le gars, il te massacre comme ça. D'ailleurs, Dan Smith, au passage, pour les auditeurs qui se rappelleraient, aujourd'hui, il travaille dans un centre d'appel dans le nord de l'Angleterre, il a jamais fait carrière. Mais c'était, en revanche, il a brisé la carrière d'Abou Diaby.
Ouais.
Et c'est peut-être son destin aussi. Et il nous écoute pas ce soir, mais j'aimerais bien qu'il nous écoute parce que j'aimerais bien lui rappeler qu'il a quand même brisé la carrière d'un autre joueur, parce que ce tacle, il est limite inhumain. Et surtout, coach, cette première fracture-là, c'est une fracture énorme. Il a trois opérations après cheville, sur cette même fracture, pour essayer de remettre. Et finalement, jamais, de cette blessure à la cheville-là, jamais le reste du corps va s'en remettre. Après, il aura, effectivement, les adducteurs, Léo, t'as raison, il aura les mollets, et voilà. Tout a compensé après, la droite, la gauche, et puis à un moment, psychologiquement, même s'il a jamais vraiment lâché, il a quand même un petit peu lâché, voilà, inconsciemment et tout ça.
Mais alors, en plus, Julien,
vraiment un joueur, déjà, c'était...
Non, j'allais dire, Julien, vas-y. En plus, souvent, on parle de l'hygiène de vie, des fréquentations. C'est l'un des mecs, alors, humainement parlant, moi, j'ai la chance de le connaître aussi, c'est l'un des mecs les plus sains que j'ai rencontré dans ce milieu. C'est quelqu'un de lumineux, Abou Diaby. C'est pas quelqu'un de bien, ça va au-delà de ça. Il y a aucune once de manipulation, de méchanceté chez ce gars-là. Et en plus, il a vraiment une vie hyper saine, quoi. C'est-à-dire, il est très safe, très healthy, tu le connais très bien, toi aussi, Julien. Tu l'as côtoyé aussi.
Donc, tout à fait. Moi, c'est un des premiers à avoir eu un cuisinier qui venait à la maison. maison, par exemple, lui préparer exactement les plats qu'il devait manger le midi, le soir, pour justement avoir avoir la diététique d'un joueur de foot professionnel de très très haut niveau. Donc il a toujours été à ce niveau-là. Il boit pas, il fume pas. Enfin, ça a toujours été quelqu'un de. En plus, il est très très croyant, très religieux. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, quelqu'un d'assez incroyable humainement déjà. Mmh. Et puis après, footballistiquement, c'était quelque chose. Et puis il y a par exemple cette saison 2009-2010 où il y a des moments quand même où les blessures l'ont laissé un petit peu tranquille. La saison 2009-2010, il est parfois intouchable. Ça veut dire qu'il y avait des matchs de première ligue où c'était le patron, mais tu pouvais même pas lui prendre le ballon. Il était grand, il faisait 1m80, enfin, il fait toujours 1m92, mais il avait une élégance technique, une habileté technique hors du commun pour un joueur de cette taille-là et de cette puissance physique-là aussi. Et je me rappelle quand Santi Cazorla est arrivé d'Espagne, après son premier entraînement, il a attrapé un joueur, il a dit, mais Abou Diaby, mais il est droitier ou il est gaucher ou il est, c'est quoi son poste? C'est parce qu'il était, mais abasourdi par le talent d'Abou Diaby. Et c'est vrai. Et voilà, moi, ça me rend très triste parce qu'il aurait dû avoir une carrière bien meilleure que ce qu'il a eu. Et en plus, c'était pas de sa faute.
Moi, je me souviens d'Abou, Giroud m'avait dit une fois, il y avait les jeunes qui jouaient, on était au bord du terrain. Il me dit, regarde-le, le petit là-bas, il avait 16 ans, je crois. Il jouait, il était surclassé, mais il voulait pas trop le faire jouer, en surclassement parce qu'il était assez frêle, il était grand, il était assez frêle, mais c'était hallucinant. Mmh. Tu ne voyais que lui sur le terrain et dans la catégorie du dessus. C'est...
Ouais, d'accord.
Ah ouais, non, mais c'était... Il était hors norme.
Abou Diaby, plus gros gâchis du foot français pour Julien Laurent. Ça aussi, hein, c'est un nom qui est souvent revenu sur le hashtag Mon After. Les noms qui continuent de défiler également sur l'application Direct Studio. Il y a d'autres noms qu'on n'évoquera pas forcément. Tristan Wahl, alors qu'on l'avait annoncé comme étant le nouveau Laurent Blanc. José Touré également, pour le foot un peu plus vintage. Ouais, ouais. Et alors, Adnan qui nous dit, alors ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas développé. Ben Arfa, alors lui dit, ouais. Pour moi reste le plus gros gâchis du foot français. On va accueillir, tiens, Assad qui nous a appelé au 32-16 avant de passer à ton gâchis à toi, mon Fredo. Salut Assad.
Salut tout le monde, salut la team.
Salut Assad.
Alors Assad, qui pour toi est le plus gros gâchis du foot?
Alors moi, c'est pas un gâchis, c'est plutôt un regret. Je vous écoute, en fait, vous avez fait à peu près le tour. C'était Ronaldinho. Donc c'est assez drôle comme ça, mais c'est vrai que pour moi, Ronaldinho, c'est un joueur qui est plus fort que Messi techniquement ou Cristiano Ronaldo, mais à cause de son hygiène de vie, n'est pas resté autant à Barcelone que d'autres grands joueurs. Donc, c'est vrai que pour moi, Ronaldinho, il a gagné peut-être une Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'après, il est parti au Milan AC. Et puis après, il est parti au Brésil. Mais c'est vrai que pour moi, Ronaldinho, ça reste un grand regret parce qu'il aurait pu gagner beaucoup plus que ce qu'il a gagné.
Et c'est tout à fait, c'est franchement, hein, quand on a commencé à réfléchir à ces missions, l'un des noms qui sont naturellement venus à l'esprit, il y avait Ronaldinho. Comme gâchis, parce que oui, il a fait un ballon d'or, mais il avait cinq ballons d'or dans les jambes. La carrière est trop courte.
Ouais, mais est-ce que vous ne croyez pas que Ronaldinho, si on lui avait enlevé ses soirées et tout, il l'aurait. Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu son ballon d'or si on l'avait enlevé.
Moi, c'est ce qu'il m'a dit.
C'est comme Romario, tous ces gars-là. Ils avaient besoin de soi.
Non, mais c'est ce qu'il m'a dit. Lui, il m'a dit, par exemple, à Paris, il en a souffert beaucoup avec Luis parce qu'il avait besoin de sortir. De toute façon, il ne dormait jamais avant les matchs. Et il dit, moi, la musique chez moi, ça fait partie de ma culture. Et sans trop faire le con, il dit, des fois, j'ai fait le con. Il dit, des fois, je faisais pas le con. Je me couchais. Il était 2-3 heures du matin. Effectivement. Mais de toute façon, même dans mon lit, j'aurais pas dormi. Et il dit, j'avais besoin de ça. Au moins, parce que dans mon lit, il se morfondait. Si, c'est ce qu'il m'a
dit. Non, mais je te crois.
C'est ce qu'il m'a dit. Mais non, il était pas, et je veux bien le croire, il se mettait pas tout le temps la tête à l'envers. Il se mettait une pression terrible avant les matchs. Il restait vraiment chez lui. Il pensait qu'au match. Il dit, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas penser qu'au match. Et j'ai compris parce que moi, j'étais pareil. Franchement.
Ouais.
Alors, je n'allais pas en boîte. Quoi. Non, je n'allais pas en boîte. Mais j'avais comme exécutoire, j'avais les chevaux.
On ne t'a pas mis dans les gâchis. Hein.
J'ai eu peur.
Qui sont les mecs les plus surcotés?
J'ai eu peur. Non, mais là où je le comprenais, tu vois, c'est que le mec, il avait besoin d'autre chose. Alors, lui, c'était la musique. Et puis, bon, parfois, effectivement, il tombait dans l'extrême, mais pas tout le temps. Mais j'ai compris qu'il y en a qui n'arrivent pas. Ils ont une telle pression. C'était qui avait une pression tout à l'heure? C'était toi, Fredo, qui en parlait, qui avait des angoisses.
Il y en a quelques-uns comme ça, hein, qui avaient du mal avec l'aspect psychologique.
Hein. Effectivement,
Navas, c'est terrible aussi. Ouais.
C'est, on peut parfois, raconter, c'est très compliqué.
En deux secondes, pour les gens qui ne connaissent pas.
Vas-y Fredo, vas-y après on passe à ton gâchis. Merci à Sad d'ailleurs de nous avoir appelé.
Ressus Navas, qui aujourd'hui va très bien, avait il faisait une dépression et des angoisses terribles quand il quittait Séville.
Ouais.
C'est-à-dire que même pour les mises au vert du style des préparations de saison où il fallait aller en Suisse ou pendant 15 jours dans les montagnes ou en Autriche, mais il faisait de telles angoisses qu'il était obligé de revenir à Séville. À tel point qu'il a failli ne pas jouer, je me souviens plus de quelle Coupe du Monde, il ne devait pas jouer parce que le sélectionneur s'est dit, mais c'est pas possible. Bah non, c'était celle de Corée et de Japon, si je dis pas de bêtises, hein. Non, plus tard. Enfin bref, je sais plus laquelle, où finalement le sélectionneur dit je peux pas prendre Navas parce qu'il va nous faire des angoisses, et Ramos dit je m'en occupe. Et c'est Ramos qui l'a chaperonné, il a fait une psychanalyse, il a été suivi, etc. Et aujourd'hui c'est un mec qui va très bien, mais il avait un problème dès qu'il quittait sa famille. C'était un truc qui devenait fou, quoi.
Alors cela dit, Fredo, toi, ton plus gros gâchis du foot, c'est pas Ressus Navas.
Non, mais je vais commencer par une petite anecdote juste avant, si tu me permets.
Vas-y.
Pour moi, ils sont deux qui sont les plus grands gâchis de l'histoire du foot. Ce sont deux joueurs du centre de formation de Cannes, dont Zidane m'a dit un jour à Cannes, au centre de formation, il y avait deux mecs qui étaient plus forts que moi. Je connais pas leur nom, mais c'est sûrement un gros gâchis qui n'est pas réussi dans le foot.
Ça, c'est de l'anecdote.
Ah, mais je vous jure. Merci. Hein, je vous jure, il m'a dit, tu sais, Fred, et j'ai d'ailleurs raconté dans mon livre, il me dit, tu sais, au centre de formation, il y avait deux mecs qui étaient plus forts que moi. Mais ils n'avaient pas l'hygiène de vie et ils se sont perdus, ils ne s'étaient pas concentrés sur le foot. T'imagines les mecs plus forts que Zidane? Et Zidane, c'est pas du genre à baratiner, quoi. Donc c'est, si vous vous reconnaissez, les gars, donnez-nous votre nom.
On vous attend
pour qu'on sache quels sont les deux plus grands gâchis.
T'inquiète, je vais me renseigner, mec.
Toi, tu dois le savoir, quoi. Mais ça, c'est l'histoire vraie. Alors, je pense qu'Anelka aurait pu faire une plus grande carrière que celle qu'il a fait.
Déjà la sienne, hein.
Pas mal, mais je pense que le talent qu'il avait, il aurait pu aller encore plus loin. Alors, pour moi, c'est un Anglais qui était appelé à devenir le défenseur galactique. Jonathan Woodgate, c'est un nom qui ne dira pas grand-chose à grand monde. Julien, bien sûr, le connaît. Il est à l'époque recruté en 2004 par le Real Madrid des Galactiques. 22 millions d'euros, ce qui à l'époque est beaucoup, beaucoup d'argent. Florentino Pérez veut faire un coup. Veut faire un coup en disant, voilà, c'est lui le futur grand défenseur de l'histoire, quoi. Voilà, c'est vraiment le... Et puis Jonathan Woodgate ne joue pas un seul match lors de sa première saison. Pas un seul. Là aussi, physiquement, psychologiquement, ça tenait pas beaucoup.
Et il avait payé cher.
Des blessures, il avait coûté très cher. Il avait du mal à assumer le prix de son transfert. Il avait du mal, comme beaucoup d'Anglais, à vivre en Espagne, à vivre en Liga. Et il a accumulé des blessures musculaires pendant un an. Il commence un an plus tard, en septembre, contre l'Athletic Club de Bilbao, donc il est là depuis plus d'un an. Premier match, il met un but contre son camp et il prend deux jeunes et il est expulsé. Non, mais c'est un truc de fou. Il ne joue que 14...
Tu comprends mieux pourquoi ils l'ont pas fait jouer.
Non, mais t'imagines, le gâchis, le truc.
Il rentre dans la maison et trouve sa femme dans le lit quand même.
C'est pas possible. Le mec a scoumoun total. Il ne jouera en tout et pour tout que 14 matchs au Real Madrid. Il sera prêté à Middlesbrough et ensuite vendu à Middlesbrough. Mais ça restera comme le gros gâchis, finalement, le plus gros gâchis de l'époque des Galactiques. Et Florentino Pérez, après cette mauvaise expérience, a mis beaucoup d'argent sur un petit jeune défenseur espagnol qui a coûté aussi cher que Woodgate. Mais lui, ça a pas mal marché. Il s'appelle Sergio Ramos.
Ramos, ouais. Salut. Voilà. Ouais, Woodgate. Moi, je m'en souviens, moi, de son transfert.
Vous en souvenez, mais à l'époque, c'était une star.
À l'époque. Ouais,
et de son match, tu t'en souviens? Parce que lui, il doit s'en souvenir.
Contre Bilbao, ouais,
Là, j'étais en train de regarder, mais le mec, en 3 ans, il fait 14 matchs au Real. C'est quand même
c'est
dingue,
ça, 14 matchs.
C'est
14 matchs.
C'est dingue, quoi.
Le mec, c'est un peu pour le remettre le coup d'après. Hein.
Ça, c'est fou.
Bah ouais, non, mais t'imagines le terrible. Et je sais pas, Julien, ce qu'on disait, il a joué en équipe nationale anglaise. Hein.
Ouais, il a 8 sélections. Il a
fait 8 sélections. Ouais, bien sûr. Et puis après, il fait une très bonne. Il fait une très bonne saison à Tottenham. Après Middlesbrough, il rebondit plutôt bien à Tottenham, notamment où il fait une bonne saison quasi pleine à 34-35 matchs, je crois. Mais effectivement, il avait beaucoup de talent, mais mentalement, ça a jamais suivi. Et puis effectivement, t'as raison. Pour les Anglais d'aller à l'étranger à cette période-là, c'était toujours très compliqué et c'était sûrement le mauvais choix. Même si je me rappelle qu'il avait expliqué que tu pouvais pas non plus dire non au Real Madrid.
Ah, bien sûr, bien sûr. Tu sais, on parle des blessures musculaires, là, on parle psychologiquement. La somatisation, c'est quelque chose qui existe vraiment. Enfin, dans nos vies personnelles, on connaît tout ça, et les sportifs encore plus. Quand ça va pas dans la tête, ça arrive souvent de se faire des claquages, quoi. Enfin,
je sais pas si
vous
le pensez,
vous les foutez, mais c'est vraiment un truc qui existe. La peur, c'est sûr.
Les gars, merci d'avoir été. Mais c'est pour ça. Pour finir, vas-y, Laurent.
Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, beaucoup, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui arrivent dans le milieu du football et dans le sport de façon générale. C'est forcément un paramètre sur lequel il faut travailler. Ouais. Parce que tout est lié.
Simone, Julien, Fred, merci d'avoir été avec nous, les mecs, pour nous donner vos plus gros gâchis du foot dans quelques instants. Le quiz nous attend. Voilà, le quiz au 32-16. Vous allez voir avec un quiz qui, forcément, est lié aux thématiques qu'on a développées hier et aujourd'hui grâce au hashtag MonAfter. À tout de suite.